Emmanuel Bastide.
Ils sont jeunes, entre 16 et 25 ans. Ils vivent en dehors de la société. Une errance qui les conduit de squat en festival techno, de hall de gare en centre d'accueil. Alors qui sont-ils? Leur vie est-elle réellement un choix? Comment les raccrocher à la société française? Témoignages et analyses avec nos invités.
Attention, nouvel horaire pour l'École des Savoirs. Aujourd'hui à 20h40 TU.
RFI, la radio du monde.
Le but aujourd'hui, c'était le vaccin tétanos et grippe. Hein.
Priorité santé.
Ça y est. Alors là, je vous ai fait la grippe, on fait tous les ans, tétanos, très important, et le tétanos tous les 10 ans. Hein.
L'air est bon.
Là, c'est pour 10 ans.
Oh, bah alors ça va.
Bonjour à tous. Vous le savez, on constate une augmentation sans précédent des contaminations au VIH-SIDA en Afrique et dans les communautés africaines en France. C'est pourquoi samedi, SIDA Info Service et l'UNESCO organisent une soirée de solidarité avec pour thème « Africains d'ici et de là-bas, unis contre le SIDA ». L'objectif est de renforcer les liens Nord-Sud pour lutter contre ce fléau. Pour faire le point sur les moyens mis en œuvre pour combattre l'expansion de cette maladie, je reçois le docteur Jean-Louis Lamboré, qui a participé à la création de l'ONU SIDA. Il vient de publier « SIDA, la bataille peut être gagnée » aux éditions de l'Atelier. Et d'autre part, je vous signale que l'Agence nationale de recherche sur le SIDA lance en France un appel à volontaires pour son nouvel essai de vaccin préventif contre le SIDA. C'est le premier essai de phase 2 réalisé en Europe. Docteur Jean-Louis Lamboré, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez démissionné début septembre de l'ONU SIDA. Pourquoi ?
Parce que je pensais que je pourrais mieux contribuer à la victoire par rapport au SIDA en travaillant à l'extérieur des grandes organisations intergouvernementales tout en travaillant avec elles.
Mais là, c'est très politiquement correct ce que vous nous dites. J'imagine aussi que c'est pour pouvoir parler librement, pour pouvoir émettre des critiques, parce que vous avez des reproches à faire sur la façon dont fonctionne cet organisme.
Je pense que j'apprécie ce qui est fait, mais il y a des choses qui manquent. Et il y a des stratégies à mettre en place. C'est pour ça que je démissionne, parce que je pourrais le faire de l'extérieur.
Et qu'en gros, vous aviez ces idées-là à l'intérieur, mais qu'on ne voulait pas les appliquer.
J'ai eu la chance, dans le cas de l'ONU SIDA, de me pencher sur les pays qui progressaient. Et je pense qu'il y a des éléments communs de tous ces pays, des leçons à apprendre de ces pays qui nous remettent en cause, nous, organisations internationales.
Alors justement, on va parler de ces exemples qui fonctionnent. L'exemple le plus flagrant que vous racontez dans votre livre, c'est la Thaïlande. Est-ce que vous pouvez nous expliquer une région, d'ailleurs, c'est pas toute la Thaïlande, hein, c'est au nord de la Thaïlande, un endroit où justement ça fonctionne bien, la lutte contre le SIDA. Alors expliquez-nous pourquoi.
Oui, j'ai eu la chance de me rendre à Payao, dans une province du nord de la Thaïlande, tout près du Laos et du Myanmar, de la Birmanie, une province de 500 000 habitants. Ce que je vais raconter se passe dans l'ensemble du nord de la Thaïlande. Je m'y suis rendu à l'instruction d'ONU SIDA en 1996. Et j'y suis allé parce que voilà la province la plus touchée par le SIDA dans les années 90, qui faisait des progrès. En 92, 20% des recrues militaires, qui représentent l'ensemble de la population des jeunes gens de 21 ans, 20% d'entre eux étaient porteurs du virus. Quand nous sommes rendus à Payao, ces proportions étaient de 6%.
4 ans plus tard.
Oui, et alors je vous demande, que pensez-vous qu'elle est aujourd'hui? Elle est de moins de 1%.
Donc ça a continué à baisser.
Voilà, une progression fantastique.
Et alors là, vous vous êtes dit pourquoi chez eux ça marche et pas ailleurs.
Ce qui est important, je pense, c'est que je ne suis pas allé étudier les Thaïs. Ce que j'ai fait, j'ai dit je ne peux pas vous remplacer. La réflexion est la vôtre. Tout ce que j'ai fait, je vais être votre porte-plume en anglais, peut-être vous stimuler par des questions. Et au départ, d'ailleurs, j'ai eu des problèmes parce qu'on disait, ça, c'est pas un expert, il ne nous dit pas ce qu'il faut faire. Mais un jour, quand même, la mayonnaise a pris et ils ont commencé à porter une réelle réflexion sur les secrets derrière ce progrès.
Ce qui est intéressant, c'est que ça a pris du temps pour essayer de comprendre pourquoi ça marche.
Oui, parce que, comme beaucoup d'entre nous, tout le monde est très occupé. Il y a aussi des relations hiérarchiques qui font que on n'ose pas vraiment exposer son opinion sur ce qui s'est vraiment passé. C'est pas par hasard, je crois, que la réunion qu'a fait le déclic était dans un restaurant où les relations hiérarchiques ne se retrouvaient plus.
Alors, pourquoi ils sont passés de 20% de séropositifs à 1%?
Nous avons travaillé donc à peu près un an là-bas ensemble, et la synthèse était toute simple. Bon, on a mis en place de l'information, on a mis en place des moyens financiers, on a mis en place des médicaments, des préservatifs, etc.
Classique.
Mais, en fait, c'est pas ça qui a fait la différence. Ce qui a fait la différence, c'est que dans notre région, les gens, les hommes en particulier, ont dit ça vaut pas le coup. Ils ont vu qu'ils étaient vulnérables, qu'ils étaient à risque. Ils ont dit, si c'est pour mourir, non. On va changer. On va changer nos propres comportements individuels. Il y a aussi eu des conversations au niveau communautaire. Mais pourquoi est-ce que ça nous arrive? Qu'est-ce que nous devons changer à ce niveau-là? Par exemple, bon, c'est vrai que nos filles, nous les confions à des agents et nous ne nous posons pas la question vraiment de ce qu'elles font au Japon ou à Bangkok. Eh bien, des ONG ont amené les communautés à faire des voyages d'études où les parents avaient le choc de leur vie, où elles voyaient leur fille derrière une vitre en train d'être prostituée. Et donc, ils ont réellement pris à bras le corps les facteurs qui les mettaient à risque, si vous voulez. Quand je suis arrivé à Payao, Dr Petri, qui dirigeait l'action là-bas avec des ONG et tout le monde, m'a un peu relevé les bretelles immédiatement parce que j'avais parlé de succès. Il dit, si vous voulez travailler avec nous, vous n'avez pas parlé de succès. Il y a un progrès, mais il n'y a pas de succès. Et d'ailleurs, la réduction de la prévalence, donc de la proportion des personnes vivant avec le virus, c'est pas ça dont nous sommes le plus fiers.
Ah mais bon? Parce qu'à l'époque, c'était encore 4%. Et elle vous dit finalement,
oui,
le succès, 4%,
oui,
c'est encore énorme.
Oui, oui, c'est encore énorme. Et puis, il y a encore des tas de problèmes. Elle dit d'ailleurs, ce dont nous sommes le plus fiers, c'est les progrès que nous avons faits en tant que société pour inclure les personnes vivant avec le VIH et les personnes affectées par le problème, dans la réponse. Ça veut dire qu'au départ, il y avait une discrimination très forte, mais à l'époque, eh bien, les gens pouvaient manger en famille, ils servaient dans les funérailles, ils participaient à l'activité économique. Je ne veux pas dire qu'il n'y avait pas de discrimination. Elle était encore là, mais il y a des progrès énormes. Un facteur important, ça a été l'attention que Dr Petri et son équipe apportaient aux prestataires de soins. Si je peux regarder juste une petite anecdote, je mangeais d'ailleurs quand je vivais là dans un village et je mangeais de temps en temps mes nouilles le soir avec Nong Kran. Et Nong Kran était une infirmière très très appréciée des personnes vivant avec le VIH. Elle gérait un centre de jour. Il y avait toutes sortes d'activités, méditation, activités sociales, on jouait aux cartes, on prenait ses soins, etc. Beaucoup de personnes nous avaient dit, c'est grâce à elle que je suis en vie. Mais Nong Kran nous raconte que quelques années avant, elle était furieuse, elle n'en pouvait plus de voir des malades se présenter à elle. Elle s'est mise à boire, elle battait ses enfants, elle rejetait les malades en disant « sortez d'ici, il n'y a rien à faire ». Et Dr Petri a vu ça au niveau de l'ensemble de ses infirmiers et infirmières. Et elle a ramené tout le monde et a dit « écoutez, ce séminaire de 3 jours, c'est pour vous. Dans 3 jours, je veux que vous soyez en paix avec le problème ». Ce que vous décidez pour vous-même, ça vous regarde. Mais au moins, soyez sûr que vous avez inclus le sida comme une composante de votre vie, comme épouse, comme maîtresse, comme mère. Faites en sorte que quand vous sortez de là, vous n'ayez plus d'anxiété pour vous-même.
Si je vous résume bien, ce qui est important, c'est de faire attention au personnel soignant.
Tout à fait.
C'est ça, c'est une vraie prise de conscience de la population et de l'information, en fait.
Et l'inclusion des personnes vivant avec le VIH dans la réponse. Au niveau même que ces personnes, aujourd'hui, en Thaïlande, certaines d'entre elles, on vient les chercher en disant « Est-ce que tu peux te présenter à des postes politiques ?» Tu nous as tellement aidés à nous occuper de ce fléau qu'aujourd'hui, on veut voter pour toi comme maire ou comme parlementaire.
priorité.santé@rfi.fr
Aujourd'hui, je reçois Jean-Louis Lamboré, auteur du livre Sida, la bataille peut être gagnée, aux éditions de l'Atelier. Alors, on vient de raconter cet exemple en Thaïlande, ce succès quand même, ce que nous on peut le dire, qui a permis de baisser considérablement la séroprévalence dans la région du nord de la Thaïlande. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller appliquer ça ailleurs? Et c'est, j'allais dire, c'est là qu'est le problème.
Oui, c'est-à-dire qu'en sortant de Thaïlande, on me dit oui, mais ça c'est à Thaïlande, il y a une culture différente, etc., etc. Et j'ai la chance, et ça c'est à Onusida, je veux le dire aussi, j'ai la chance à Onusida de me pencher sur les réponses locales, c'est-à-dire quelles sont les réponses qui, au niveau de différents pays, marchent. Et surprise, ce qui est appris en Thaïlande se retrouve dans ces pays. Que vous alliez en Ouganda, vous alliez au Sénégal, vous alliez au Brésil, vous alliez à San Francisco, vous parliez aux activistes qui ont travaillé à Oslo ou dans d'autres villes, ils vous disent c'est ça. Tu as raison, c'est vraiment ce que nous avons appris. La mise en place de moyens financiers, de commodités telles que les préservatifs, les antirétroviraux, tout ça c'est d'information, c'est très important. Hein, mais ça ne se substitue pas à la prise de conscience, la prise de parole et l'action au niveau local, eh bien, il ne se passe rien. Donc, plusieurs pays retrouvent ça et nous cherchons alors...
Oui, finalement, parce que donc il n'y a pas que le nord de la Thaïlande.
Non, non, on ne parle pas que du nord de la Thaïlande. Il faut, par exemple, dire que l'action des Ougandais face au sida
est extraordinaire.
Est formidable, les taux ont baissé, et pour avoir une efficacité similaire avec un vaccin biologique, il faudrait trouver et appliquer un vaccin efficace à 85%. Donc déjà, chapeau à ce que les Ougandais ont fait. Et donc on retrouve, malgré les différences culturelles, des caractéristiques communes. Maintenant, comment aller au-delà? Et comment faire en sorte que le partage se fasse dans les pays qui, en fait, résistent à la prise de conscience?
Et là, vous rencontrez une société privée, rien à voir, British Petroleum, avec qui vous allez travailler. Alors, racontez-nous ça.
Oui, je suis un jour dans un avion, je pars de Bruxelles à New York, et un ami me donne un bouquin, dit, lis ça, peut-être que ça va aider aux échanges, et ça s'appelle Learning to Fly, apprenons à voler. Bon, et il s'agit en fait de l'expérience en gestion du savoir de la société pétrolière BP. Qu'est-ce qu'ils ont fait, BP? Ils ont dit à leurs experts, basés à Londres, rentrez sur le terrain ou allez à la concurrence. Mais nous, à Londres, on n'a plus besoin de vous parce que votre expérience est toujours obsolète. Vous parlez d'histoire il y a 5 ans, il y a aujourd'hui une autre façon de gérer le savoir. Nous allons mettre en place un instrument d'auto-évaluation au niveau de chacune de nos entreprises, il y en a plus de 100, et cette auto-évaluation va permettre aux gens de savoir ce qu'ils font bien et peuvent partager avec les autres, et ce qu'ils doivent apprendre d'autrui. Et donc nous développons à ce moment-là un instrument d'auto-évaluation de la compétence face au sida, basé sur 10 pratiques, ou n'importe qui, vous-même avec votre équipe, ou les communautés africaines de Paris, la ville de Lyon, Madagascar, tout le monde peut s'appliquer cet instrument en disant, sommes-nous compétents face au sida? Autrement dit, il n'y a pas d'immunité biologique, mais on peut avoir une immunité sociale. Les 10 pratiques, je vous en énumère quelques-unes. D'abord, est-ce que nous reconnaissons le problème? Eh bien, très vite, dans beaucoup d'endroits, on s'arrête au niveau 2. Parce que niveau 3, c'est nous en parlons ensemble et nous décidons de ce qu'il faut faire. Eh bien, beaucoup d'endroits, y compris par exemple des bureaux des Nations Unies, ne le font pas. On n'a jamais eu de discussion qui porte de manière interne à qu'est-ce que nous faisons pour être nous-mêmes compétents.
Et quand vous dites nous, c'est je,
nous,
quoi. Comme moi, je.
La capacité de s'occuper de ce problème part de soi et pas de l'extérieur. Et donc, cet instrument permet alors d'établir les niveaux de compétences et l'action pour arriver à des niveaux supérieurs.
RFI, le monde est chez vous.
Priorité santé, Claire Hédon.
Priorité santé, aujourd'hui consacrée à la lutte contre le sida à l'occasion de la soirée de solidarité organisée par l'UNESCO et par Sida Info Service, avec pour thème « Africains d'ici et de là-bas, unis contre le sida ». Jean-Louis Lamboré, donc maintenant, à partir de tout ça, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui pour que, bah, finalement, partout dans le monde, on applique ces théories-là?
Il est déjà en cours d'application en beaucoup d'endroits. Par exemple, Madagascar a adopté cet instrument comme l'outil qui dégage la parole au niveau des communes, même de communes qui n'ont pas été vraiment confrontées de manière massive au sujet. Et l'écho que nous avons, c'est que plus de 100 communes aujourd'hui ont discuté du sida et ont développé par eux-mêmes les actions pour développer leur immunité.
Alors, et ça marche à Madagascar, alors.
Et donc, c'est en cours à Madagascar, et contrairement à d'autres endroits, les fonds, tout à coup, se débloquent. Vous voyez, la même chose, si vous voulez, lorsque on met en place une offre d'antirétroviraux, comme les entreprises le font aujourd'hui dans plusieurs pays d'Afrique, vous mettez en place une offre d'antirétroviraux, mais il n'y a pas de dialogue sur la maladie, vous avez 10, 20, maximum 30% des patients qui ont besoin de ces antirétroviraux qui se présentent. Donc comment est-ce que nous voulons poursuivre? Eh bien, nous créons une constellation, un groupe de personnes et d'institutions qui souscrivent à l'objectif de la compétence face au sida et qui sont prêts à offrir leurs services pour faciliter la mise en place de cet instrument et des mécanismes de partage d'une communauté à une autre, de ville à ville, de village à village, d'organisation des Nations Unies à l'autre, d'organismes de coopération à l'autre, voilà.
Ce qui est intéressant dans ce que vous racontez, c'est qu'on a toujours eu l'impression sur le sida qu'il y avait un problème de manque de moyens financiers, entre autres quand on parle toujours de l'accès aux antirétroviraux, et quand on vous écoute, finalement, ce sujet-là, vous ne l'abordez pas, ça n'a pas l'air d'être pour vous un problème aujourd'hui de trouver les moyens financiers. Le problème, il est au niveau social. On n'est même pas au niveau de la santé, il est au niveau social.
Il est au niveau social. Il y a aujourd'hui, grâce, et il faut le dire, à l'action des bailleurs de fonds et à l'effort qui a été fait. Le fait, par exemple, que la Banque mondiale aujourd'hui donne des dons, c'était la première fois dans son histoire. Il y a donc des moyens financiers en place. Mais pour qu'ils soient mobilisés, que les gens libèrent leur parole, disant, en particulier dans beaucoup de pays d'Afrique et d'autres endroits, en Chine, etc., dire, écoutez, ce problème nous concerne, hein, arrêtons de faire semblant que cette personne est morte parce qu'on lui a jeté un sort, cette personne est décédée parce que, on voit bien le comportement de son mari, etc., etc. Discutons ce que nous pouvons faire ensemble pour ne plus nous mettre dans des situations de risque.
Et vous utilisez un terme qui est le vaccin social. C'est assez intéressant, à l'époque où on parle justement de ce vaccin contre le sida, mais on parle d'un vaccin médical, vous parlez de vaccin social.
Oui, c'est d'ailleurs le représentant de la Thaïlande à l'Assemblée Générale de l'OMS qui a un jour dit ça à l'Assemblée en disant, écoutez, nous souscrivons totalement à la recherche scientifique pour un vaccin biologique, mais n'oublions pas qu'il y a un vaccin social. Et je pense qu'on a touché quelques-uns de ces ingrédients.
Alors, dans votre livre, vous racontez tout votre parcours. On ne va pas avoir le temps d'en parler. Ce serait bien juste d'en dire un mot. Vous avez quand même commencé à exercer comme médecin au Zaïre.
Oui, moi j'étais, je dirais, à l'université des villageois et des communautés villageoises du Bas Zaïre. Quand je suis parti de là, je suis allé voir le ministre et je l'ai remercié parce que si je pouvais partir à la Banque mondiale, c'est parce que j'avais appris dans les communautés de Bakongo aussi. Il y en a qui m'écoutent, je les salue. C'était un moment où j'ai vraiment pu apprécier toutes les forces des sociétés, d'abord du Bas-Congo, ensuite de pas mal de pays d'Afrique, et c'est de ça qu'il s'agit. Si on pouvait changer notre propre regard et porter le regard sur les choses qui marchent, sur les forces des gens, et partir de là, puisqu'après tout, c'est eux qui vont changer, puisque c'est pas au niveau du centre de santé que la solution se trouve, c'est dans la chambre à coucher. Donc, partons des forces, donnons la confiance aux gens qu'après tout ce problème, d'autres l'ont résolu, nous pouvons le faire aussi.
Donc vous avez commencé par travailler sur le terrain, vous êtes après parti à Washington, à la Banque mondiale, puis à l'ONU SIDA. Oui. Aujourd'hui, vous allez travailler dans quelle structure maintenant que vous avez démissionné de l'ONU SIDA?
Eh bien, nous montons une constellation, c'est-à-dire un ensemble de personnes et d'institutions qui travailleront ensemble à cet objectif et qui viendront en complément des bonnes choses qui sont faites par différentes institutions pour mettre en place des programmes de soins, etc.
Et vous n'avez pas de problème pour trouver des financements?
Je vous me rappellerai dans quelques mois. Bon, et ce que nous proposons ne coûte pas beaucoup d'argent. Hein. Et ce que nous souhaitons, en fait, c'est qu'au niveau des grandes institutions internationales, on inscrive la facilitation de la prise de conscience locale et de l'action locale au niveau des plans stratégiques. en plus de l'offre de soins, de services et d'informations qui est déjà en train d'être mise en place.
Et donc, clairement, on peut gagner la bataille contre
ça. C'est
pour
clair.
Vous, c'est...
Ah, c'est clair. Oui, et c'est pas, disons, une espèce d'illumination un matin en me réveillant. C'est le résultat d'un parcours que j'ai essayé de décrire avec Jean Le Gastelois dans le livre que vous avez cité.
Docteur Jean-Louis Lambouré, merci. Je rappelle que vous venez de publier SIDA, la bataille peut être gagnée, aux éditions de l'Atelier. Vous trouverez sur notre site internet RFI.fr les coordonnées de votre action, compétence face au SIDA. Et puis n'oubliez pas que samedi 20 novembre, il y a une soirée de solidarité organisée par SIDA Info Service et par l'UNESCO, avec pour thème « Africains d'ici et de là-bas, unis contre le SIDA ». Vous trouverez plus d'informations sur le site internet sida-info-service.org. Au revoir à tous et dans quelques instants, les informations.